le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Et comme on est toujours au mois de mars, je vais continuer à vous parler des droits des femmes. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter uniquement au 8 mars, la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. On peut lutter pour les droits des femmes pendant toute l'année, et moi je vais en parler pendant tout le mois de mars. Et je vais revenir un petit peu sur la façon dont la guerre en Ukraine a affecte les femmes en particulier, parce que comme dans de nombreux conflits en Ukraine, les femmes se retrouvent en première ligne de la guerre et des souffrances infligées dans son sillage. Sur notre site, à travers une enquête, on a recueilli plein de témoignages que vous pouvez retrouver sur le site dans leur intégralité, et je vais vous en donner un petit aperçu. Mais ce qu'il faut retenir en particulier de cette enquête, c'est tout d'abord que l'invasion à grande échelle a des effets néfastes sur la santé mentale, physique et sexuelle et reproductive des femmes. Les violences sexuelles et liées au genre sont très préoccupantes en Ukraine. Les femmes doivent donc jouer un rôle proactif dans les processus de prise de décision de manière à être un peu mieux satisfaites par leurs besoins. Et les femmes sont les plus touchées par les brutalités de la guerre. Elles sont toujours en première ligne des conflits en tant que soldates, en tant que combattantes, en tant qu'infirmières, que médecins, que bénévoles, que militantes pour la paix, en tant qu'aidantes au sein de leur communauté et de leur famille, en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, en tant que réfugiées. Et trop souvent, elles sont les victimes ou les survivantes. L'invasion totale de la Russie en Ukraine n'échappe pas à la règle. Ce conflit entre dans sa deuxième année et chaque jour, les femmes doivent faire face seules à des situations de vie ou de mort. Elles sont confrontées à des violences sexuelles et liées au genre. Elles souffrent de pénuries, du manque de ressources et d'accès aux soins pour elles et pour leur famille. Et elles sont trop souvent placées en position de victime ou de survivante. Elles sont exclues des processus décisionnels. Si de nombreuses femmes en Ukraine rejoignent la résistance à la guerre d'agression que mène la Russie, très souvent, les responsabilités liées à la prise en charge des enfants et des membres de la famille leur incombent à elles, ce qui s'avère particulièrement difficile. Tamara, une jeune femme qui vit dans la zone de conflit de l'oblast de Donetsk, raconte comment l'invasion affecte en tant que mère, mais aussi en tant que fille, puisque elle s'occupe de ses parents, et elle nous dit « Tout a empiré, les hommes de la famille sont à la guerre, les femmes se retrouvent seules, souvent avec de jeunes enfants à s'occuper et sans aucun revenu, il n'y a pas d'aide, aucune aide physique ni financière. » Elle est donc contrainte de choisir entre abandonner ses parents et mettre ses enfants en sécurité. Et donc elle s'est retrouvée face à un dilemme complètement impossible. Elle est revenue dans la zone de risque avec ses enfants, mais elle doit prendre soin de ses parents quand même, qui sont eux restés à la maison. Donc c'est assez difficile de faire la part des choses. Mais elle n'a pas vraiment beaucoup de choix. Pour de nombreuses femmes, partir en quête de sécurité a un impact émotionnel et physique qui est dévastateur, évidemment. Et on a Marina qui nous témoigne également. Nous avons vécu dans un sous-sol pendant près d'un mois parce que les enfants étaient réellement terrifiés. Ma fille ne pouvait plus dormir à la maison. Mes enfants sont en grande détresse psychologique et émotionnelle. Généralement, on ne peut se sentir en sécurité nulle part à cause des bombardements et des alertes aériennes. Les attaques russes répétées contre les infrastructures civiles essentielles qui s'apparentent à des crimes de guerre limitent du coup gravement l'accès aux soins de santé pour les personnes qui vivent en Ukraine et notamment pour les femmes. Les femmes et les jeunes filles en période de menstruation, quant à elles, doivent parfois choisir entre les denrées alimentaires et les produits sanitaires. En cause, évidemment, l'approvisionnement limité et la hausse des prix des produits menstruels. Tamara nous dit « On trouve des serviettes et des tampons à vendre, mais à cause des problèmes financiers, je dois choisir si j'achète à manger ou des serviettes. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, j'utilise des moyens improvisés. » Et cette invasion à grande échelle, ça implique également des hausses des violences sexuelles et les violences liées au genre. Elle s'aggrave, elle s'intensifie pour les personnes qui vivent dans les régions touchées par le conflit, et ce pour de nombreuses raisons, dont le manque de sécurité, l'absence ou l'érosion de l'état de droit, l'impunité généralisée pour les auteurs, le manque de confiance dans les autorités d'occupation, ainsi que la stigmatisation liée au fait de raconter des expériences de violences sexuelles et liées au genre. Pour Marina, qui est travailleuse humanitaire, les violences sexuelles sont un immense problème pour les femmes. J'ai participé à des formations et on nous a dit que dans certains cas, les enfants, eux aussi, ont montré, après l'évacuation, des signes indiquant qu'ils avaient subi des atteintes sexuelles. Alors qu'elle travaillait dans un point de rassemblement pour personnes déplacées, Marina était témoin de l'escalade de la violence familiale. Environ 60 personnes vivaient dans un gymnase et elle travaillait déjà sur la question. Elle a vu du coup tous les signes de violence à l'œil nu. Elle en a observé énormément là-bas, alors que pourtant elle est normalement dans ce genre de situation à cause de son travail. C'est pourquoi aujourd'hui Amnesty International demande à ce que les femmes soient plus incluses dans les processus de prise de décision. Elles doivent pouvoir participer en amont au processus décisionnel à tous les niveaux afin de s'assurer que leurs besoins et leurs perspectives spécifiques soient entendus et pris en compte dans les lois, dans les politiques et dans les pratiques. Cette invasion à grande échelle est dans sa deuxième année. Les enfants passent leurs années de formation à grandir dans un environnement violent, tandis que les femmes sont obligées d'endurer des périples difficiles et dangereux pour se mettre en sécurité tout en gérant des responsabilités accrues pour s'occuper de leur famille. Amnesty International appelle donc à une action concertée de la part de la communauté internationale afin de garantir la participation significative des femmes dans le processus de prise de décision, qu'il s'agisse des délibérations internationales sur l'aide financière, les réparations et les efforts de reconstruction, l'acheminement de l'aide alimentaire ou des procédures judiciaires pour les victimes et les survivantes de la guerre d'agression menée par la Russie. Pour Amnesty International, ce n'est qu'en incluant les femmes à tous les niveaux que nous pourrons faire en sorte que leurs besoins soient satisfaits, soutenus et prioritaires et que leurs droits soient respectés et protégés. Mais la Russie n'est pas le seul endroit au monde où la guerre fait rage et où les violences sexuelles sont présentes. Le viol est une véritable arme de guerre. Au Tigré, par exemple, c'est une volonté d'humilier, de punir toute une communauté. Amnesty International a fait un entretien avec Donatella Rovera, qui est conseillère en situation de crise à Amnesty International. Et cet entretien a été publié dans le journal La Chronique, qui est le journal magazine des droits humains d'Amnesty International. Et vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site et dans La Chronique. Mais je vais vous donner un petit aperçu des questions qu'on lui a posées et un résumé des réponses qu'elle a données. Alors d'abord, on s'est demandé qu'est-ce qui fait la singularité du conflit au Tigré ? Quelles sont les particularités des violences faites aux civils et plus particulièrement celles qui sont faites aux femmes ? Elle répond que ce qui distingue ce conflit, c'est l'échelle et la brutalité de l'usage des violences sexuelles. Les bourreaux veulent humilier et punir toute une communauté. Ces viols ont été commis à grande échelle, souvent en réunion et pendant plusieurs jours. Les insultes, le dénigrement à caractère ethnique ou racial, les mutilations gratuites ont été quasiment systématiques. Il y a eu donc une véritable volonté de faire mal. Une majorité des Tigréens parlent de crimes contre l'humanité, voire de génocide à leur encontre. Les personnels humanitaires, eux, préfèrent souvent parler de ce qu'on appelle en droit international le crime de guerre. La qualification des faits est assez importante pour établir ce qui se passe vraiment. S'il est vrai qu'aujourd'hui, les responsables de ces crimes jouissent d'une impunité, on espère que ce ne sera pas définitif. Ce serait naïf d'ailleurs de leur part de croire que l'impunité va durer éternellement. Amnesty International a réussi à déterminer qu'il y avait bien des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En tout cas, comme ça qu'on les qualifie en droit international. En revanche, Amnesty International n'a pas établi qu'il y avait un génocide. Ce qu'on appelle un génocide, c'est une élimination systématique de toute une population ethnique. Mais il y a quand même beaucoup de discours de haine qui sont exploités dans le contexte des violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Il y a de la rancune, du racisme intracommunautaire qui ont alimenté ces violences sexuelles. Et tout ça, ça contribue à faire durer les violences et à nourrir chez les uns et chez les autres la volonté de vengeance. Parce qu'on utilise ce qui s'est passé hier pour justifier les crimes d'aujourd'hui. Et c'est très dangereux du coup pour le futur de l'Éthiopie. Ça renforce le capital de haine qui existe déjà dans les différentes communautés, qui peut être exploité par tel ou tel dirigeant. Et évidemment, ça rend la paix beaucoup plus difficile. On se demande donc quel est l'impact à long terme d'un usage massif de ces violences sexuelles sur les victimes et sur leur entourage. Et on nous répond, Donatella Rovera nous répond que pour les victimes et pour les survivantes, l'impact est énorme, au point de vue psychologique, mais aussi au point de vue physique. Ces viols sont souvent accompagnés par d'autres types de tortures, en fait. Les victimes ont été dans l'impossibilité totale d'obtenir des soins dans le court terme. Les séquelles sont renforcées par l'absence ou le retard des soins. Parce que, en fait, les victimes tigréennes, elles se trouvent dans des régions qui sont très éloignées des centres de santé et dans des régions qui sont contrôlées par les mêmes forces qui les ont violées. Depuis le début de la guerre au Tigré, tout ce qui relève des services publics ou des services de santé a été complètement détruit. Et à cause du blocus de la région, la pénurie de médicaments était totale. Donc la peur des victimes et l'écroulement du système de santé au Tigré, ça fait que la plupart des femmes et des filles n'ont pas été soignées. Alors, dans quelle mesure l'usage du viol comme arme de guerre change vraiment la nature du conflit ? On peut dire que, tout simplement, ça rend la paix beaucoup plus difficile, parce qu'il y a tout un système de vengeance qui va se mettre en place. Il y a un vocabulaire, des menaces qui sont utilisées par les violeurs à l'encontre de leurs victimes, qui alimentent un cercle vicieux, un cycle de vengeance. Les forces gouvernementales, les milices et les forces érythréennes justifiaient leurs crimes en disant aux victimes « Vos hommes ont fait ça à nos femmes, donc on se venge ». Et on a vu que quand les forces tigréennes ont pris le contrôle des régions Afar et Amara au cours d'une contre-offensive, les soldats se sont livrés aux mêmes crimes avec les mêmes justifications. Alors c'est pas du tout à la même échelle parce que les forces gouvernementales et les milices qui ont contrôlé le Tigré pendant une longue période, alors que les Tigréens, ils ont fait que des incursions qui étaient beaucoup plus brèves en territoire Amara et Afar. Mais là où ils ont pu prendre le contrôle, ils se sont livrés aux mêmes violences sexuelles. Donc c'est une véritable arme de guerre. Maintenant se pose la question de la responsabilité. Qui a commandité, qui est responsable d'avoir commandité ou laissé commettre des violences sexuelles ? Et aujourd'hui, on n'est tout simplement pas en mesure de dire s'il y a eu des ordres au niveau politique pour inciter certains à infliger des violences sexuelles. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a une culture de l'impunité qui fait que les violeurs peuvent agir comme ils le veulent sans s'inquiéter des conséquences. Surtout, on ne sait pas du tout si des moyens sont mobilisés pour enquêter, pour trouver les coupables, etc. La question de la justice n'est pas abordée ou que de manière très superficielle dans les accords de cessez-le-feu. Il n'y a pas de feuille de route sur la justice en général et la situation des femmes n'est même pas mentionnée. Le gouvernement a très longtemps été dans le déni concernant ces violences, mais voilà, plus tard, il a reconnu quand même, de manière extrêmement limitée, qu'il avait commis des fautes. Il a fait des déclarations assez floues en disant qu'il enquêtait sans donner tellement de détails. Mais bon, nous, les femmes qui ont été rencontrées par Amnesty International n'ont jamais été contactées par qui que ce soit. Et c'est la même chose du côté du commandement tigréen. Donc le viol comme arme de guerre, c'est un véritable problème. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer les pétitions qui sont en rapport avec ce sujet. Moi, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur Radio FM+.